Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. À l'audience générale mercredi, le Saint-Père a dressé un bilan de son dernier voyage apostolique qui l'a conduit en Hongrie et en Slovaquie. Plus de précisions dans l'actualité de l'Église avant de nous rendre au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. L'actualité sociopolitique sur le continent, quant à elle, nous conduira au Soudan, en Tunisie, au Cameroun, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niemier.
C'est une tradition lors de l'audience générale qui suit un voyage apostolique. Le Saint-Père a dressé ce mercredi un bilan de son dernier déplacement qui l'a conduit en Hongrie et en Slovaquie il y a 10 jours. Un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines, un pèlerinage d'espérance, a résumé François. Les précisions d'Adélaïde Patriani.
De Budapest pour la clôture du Congrès Eucharistique International au sanctuaire marial de Chaštín en Slovaquie, le pape a voulu rappeler l'essentiel. Adorer le Seigneur, prier, faire pénitence, une réponse de guérison d'après François face au consumérisme et aux vapeurs d'une pensée unique. Avec les communautés juives, le Saint-Père a également montré qu'il n'y a pas de prière sans mémoire. Une mémoire qui amène aux racines de la vie chrétienne, remplie de la sève vitale de l'Esprit-Saint. Ce sont elles qui garantissent l'avenir, a redit le pape. Mais attention aux idéologies qui les trahissent et les stérilisent. Enfin, le souverain pontife a parlé de l'espérance suscitée par ce voyage.
Questo anche mi ha dato speranza a vedere tante coppie giovani, tante e tanti bambini.
Cela m'a donné de l'espérance de voir tant de couples jeunes et tant d'enfants, confie François. Un signe lumineux dans l'hiver démographique que connaît l'Europe. D'autres rencontres ont marqué le pape, avec les missionnaires de la Charité de Bratislava, la communauté rome de Košice, où l'on vit la fraternité au quotidien. L'avenir sera porteur d'espérance si nous sommes ensemble, a souligné le successeur de Pierre. Et de conclure par une demande de prière, afin que les graines semées pendant ce voyage portent de bons fruits.
À partir du 1er octobre, l'entrée au Vatican sera autorisée qu'aux personnes munies du laissez-passer vert du Vatican, du laissez-passer vert européen et du certificat vert COVID-19, étrangers attestant de la vaccination ou de la guérison du SARS-CoV-2 ou de la réalisation d'un test moléculaire ou antigénique rapide avec un résultat négatif pour le virus SARS-CoV-2. C'est ce que prévoit une ordonnance du président de la commission pontificale de l'État de la Cité du Vatican sur les urgences sanitaires. Les précisions de Donatien Nyembo.
Le texte reprend la recommandation du pape François lors de l'audience du 7 septembre de garantir la santé et le bien-être de la communauté de travail dans le respect de la dignité des droits et des libertés fondamentales de chacun de ses membres et d'adopter toute mesure appropriée pour prévenir, contrôler et contrer l'urgence sanitaire. Le contrôle de l'accès à l'État est-il précisé et délégué au corps de gendarmerie? L'ordonnance stipule que ces dispositions s'appliquent aux citoyens, aux résidents dans l'État, au personnel servant à quelque titre que ce soit dans le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et dans les différents organes de la Curie romaine et des institutions connexes ainsi qu'à tous les visiteurs et utilisateurs des services. La seule exception concerne les célébrations liturgiques pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement du rite, dans lesquelles toutefois les règles sanitaires relatives à l'éloignement, à l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à la limitation de la circulation et du rassemblement des personnes et à l'adoption des règles d'hygiène spécifiques doivent être dûment respectées. Enfin, l'ordonnance rappelle que les services de la santé et de la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail de la direction de la santé et de l'hygiène est chargé de la vérification.
Au Kenya, l'archidiocèse de Nairobi entend apporter une aide humanitaire aux familles vulnérables durement touchées par la COVID-19 et la sécheresse. La pandémie de COVID-19 a perturbé la vie quotidienne de l'humanité au niveau mondial et local, exposant les familles à des pressions extrêmes et mettant à rude épreuve leur capacité à subvenir à leurs besoins, a déclaré l'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Nairobi. Nairobi, Mgr David Kamau, en appelant les paroissiens, les communautés religieuses, les institutions et les personnes de bonne volonté à fournir une aide humanitaire aux familles vulnérables qui subissent de plein fouet la pandémie prolongée de COVID-19 et sont aux prises avec ses effets. Reconnaissant à tous ceux qui ne cessent de soutenir l'archidiocèse de Nairobi au fil des années, notamment lors des situations d'urgence, Mgr Kamau a dans un message souligné la nécessité d'une aide humanitaire pour les nombreuses familles touchées, non seulement dans l'archidiocèse de Nairobi, mais aussi dans d'autres régions du pays où sévit une sécheresse très grave. Au moins 2 millions de Kenyans sont touchés gravement par la sécheresse qui devrait s'aggraver dans les semaines à venir, a ajouté l'administrateur apostolique. La suite de l'actualité de l'Église nous conduit en Côte d'Ivoire, où la communauté catholique du village d'Abouabou, située à environ 13 kilomètres du centre-ville de Port-Boué, a célébré dimanche dernier le premier centenaire de son évangélisation. La messe solennelle a été présidée par Mgr Raymond Aoua, évêque de Grand Bassam.
L'événement célébré dans une grande allégresse par les fidèles au corps d'une Eucharistie. Eucharistie doublée des 5 ans d'existence de leur paroisse Saint-Joseph époux de la Vierge Marie d'Abouabou dans le diocèse de Grand Bassam. La messe pour l'occasion a rassemblé les filles et fils de cette bourgade, les cadres et les élus locaux. Président cette messe, Mgr Raymond Aoua, l'ordinaire du lieu dans son homélie, les a appelés après ce jubilé à prendre un nouveau départ en se mettant au service des uns et des autres, les encourageant à vivre dans l'harmonie.
Nous savons ce qui se passe dans nos sociétés. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est l'intérêt, c'est le profit, c'est l'égoïsme. Chose que chacun de nous dénonce à son niveau. Alors nous avons besoin vraiment d'un cœur plus ouvert, d'un cœur plus généreux pour nous mettre au service des autres. La communauté, c'est celle dont elle a besoin. C'est vraiment la cohésion, c'est la paix et surtout le vivre ensemble dans l'harmonie.
Célébrer 100 ans d'évangélisation, c'est également célébrer 100 ans de bienfaits accordé au Seigneur à ce village d'Abouabou. Le père Akebegré Joachin, curé de cette paroisse jubilaire, dressant le bilan de cette marche ecclésiale, l'a relevé tout en estimant qu'il est mitigé. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Togo, 5 religieuses de Saint à Lomé ont dit leur oui définitif à servir le Seigneur dans la congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Reportage.
Elles étaient au nombre de 5 sœurs à prononcer définitivement leurs vœux dans la congrégation des Sœurs de la Miséricorde de C ce dimanche 12 septembre en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kégué à Lomé. Au cours de la même cérémonie, 2 jeunes filles, toutes deux de la paroisse Sainte-Anne de Kikao dans le diocèse de Kara, ont fait leur profession pour la première fois dans la même congrégation pour vivre les conseils évangéliques dans la même famille que leurs aînés. La messe a été présidée par Son Excellence Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque métropolitain de Lomé, et concélébrée par une vingtaine de prêtres, dont le révérend père Isidore Sassou, curé de la paroisse Haute. À l'homélie, l'archevêque de Lomé a mis l'accent sur la foi en 3 expressions qu'il a proposées pour la méditation à partir des textes liturgiques du jour. Pour Mgr Bariga, la foi est d'abord une confiance absolue en Dieu, quelles que soient les épreuves traversées. Elle est aussi l'amour qui se manifeste avec de belles œuvres. Elle est relation avec Jésus qui conduit celui qui veut le suivre jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Ces différents vœux perpétuels et temporaires ont été reçus par la mère Reine Claude Bernard, supérieure générale des Sœurs de la Miséricorde de Saint. Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Au Bénin, notre correspondant local nous rend compte de la clôture des 40 ans d'existence de la paroisse Saint-Martin-du-Tour d'Akpakpa dans l'archidiocèse de Cotonou.
La paroisse Saint-Martin-du-Tour d'Akpakpa à Cotonou, dans l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, a clôturé son jubilé des 40 ans de sa création le dimanche 19 septembre 2021. La messe d'action de grâce a été présidée par Mgr l'archevêque Roger Ngbedi. Après avoir présenté à l'archevêque la paroisse dans ses différentes structures et infrastructures, le curé jubilaire, le père Roger Sevo, a planté le décor de la célébration.
Nous ne pouvions pas ne pas célébrer l'événement en ce moment, sinon nous l'aurions ajourné, compte tenu de la pandémie et des restrictions qui nous sont imposées pour endiguer ce mal pernicieux et dangereux. C'est pourquoi nous l'avons voulu sobre. Mais priant par devoir de mémoire, nous avons donc sursis à toutes les manifestations initialement prévues pour cette célébration de clôture, pour nous en tenir à l'essentiel, cet essentiel qu'est la messe, la grande action de grâce de l'Église notre Mère.
Et Monseigneur Roger Ngwidji d'appeler les fidèles de Saint-Martin à
rester fidèles à la pureté de la foi reçue depuis les origines, malgré les contradictions de notre temps présent, à construire des communautés chrétiennes où règne l'amour fraternel
et
à devenir tout petits comme les enfants.
Guy de Suyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le général Mohamed Hamdan Daglo, numéro 2 du Conseil souverain qui dirige la transition au Soudan, a accusé mercredi les politiciens d'avoir offert l'occasion à la tentative de putsch qui a fait trembler le pays la veille, selon l'agence officielle Sunna. Mardi, Khartoum avait annoncé avoir déjoué une tentative putschiste impliquant des civils et des militaires, les accusant d'être liés au régime d'Omar el-Béchir, destitué en avril 2019, après 30 ans d'un règne sans partage. Les militaires impliqués ont depuis été placés en détention. Le président béninois Patrice Talon a reçu mercredi au palais présidentiel de Cotonou l'ancien chef de l'État Boni Yayi 5 ans après leur dernière rencontre, signe d'un possible apaisement entre le pouvoir et l'opposition au Bénin. Les deux hommes longuement considérés comme des rivaux politiques se sont entretenus durant 1 heure. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond entre Talon et Yayi, mais il n'y en a pas de profond, a déclaré M. Boni Yayi à la presse à la sortie de leur entrevue. J'ai fait des propositions au président qui m'a écouté, notamment qu'il soit mis fin aux arrestations politiques pour permettre à tous nos compatriotes exilés de rentrer chez eux, a-t-il ajouté. Le député tunisien Seyfedine Makhlou, critique virulent du président Kais Saied, a été de nouveau arrêté à la suite d'un mandat de dépôt émis par un tribunal militaire pour atteinte à la dignité de l'armée, a indiqué mercredi son avocat. Le Nigeria va lancer le 1er octobre une version numérique de sa monnaie, le Naira. Sa banque centrale cherchant à surfer sur la vague de popularité des crypto-monnaies qui gagnent la première économie du continent africain. Le Nigeria, qui a conclu un partenariat avec une entreprise étrangère du secteur de la technologie financière, fera figure de pionnier en Afrique, tout comme son voisin ouest-africain, le Ghana, qui teste comme nouveau moyen d'échange son e-CEDI depuis le mois de septembre.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé mercredi la répression au Cameroun et réclamé la libération d'une centaine d'opposants détenus depuis 1 an pour avoir manifesté en réclamant notamment le départ du président Paul Biya, 80 ans, dont 39 au pouvoir. Donatien Nyembo.
Le 22 septembre 2020, la police avait violemment réprimé une tentative de mobilisation de cette partie d'opposition dans l'un des principaux le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Quelques 500 militants avaient été arrêtés et un an plus tard, 124 partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans des cadres sont encore détenus sans procès selon leurs avocats. Un collectif de 50 de ces derniers ont renoncé publiquement le 9 septembre dernier à les défendre face à l'illégalité et l'arbitraire de leur détention. Les autorités devraient remettre en liberté immédiatement et sans condition toutes les personnes arrêtées pour avoir exprimé leur point de vue politique ou pour avoir exercé leur droit à la liberté des réunions pacifiques, plaident Human Rights Watch et Amnesty International dans un communiqué conjoint. et les appellent aussi à mettre fin à la campagne des répressions contre les manifestants pacifiques et les détracteurs du gouvernement.
En République démocratique du Congo, une source gouvernementale a annoncé mardi l'arrestation d'un ressortissant étranger présenté par les autorités congolaises comme un Jordanien, formateur des rebelles du groupe Force démocratique allié ADF. Il a été arrêté sur un axe routier dangereux de Beni dans l'est du pays. Du sport avant de refermer les pages de l'actualité sociopolitique, l'ex-international camerounais Samuel Eto'o, 40 ans, a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football, a écrit sur son compte Twitter l'ex-attaquant de Barcelone, passé aussi par l'Inter Milan, Chelsea et Real Madrid, entre autres. Après mûre réflexion, j'ai pris cette liberté par amour du Cameroun et par passion pour notre football, a expliqué Samuel Eto'o, ajoutant qu'il est temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine sur les organisations internationales et solidarité. Marie-Josée Mwando Boisboileau.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne l'engagement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, dans le cadre de l'Année internationale des fruits et des légumes 2021. Riches en vitamines, en minéraux et en fibres, les fruits et les légumes sont indispensables à une alimentation nutritive et contribuent en tant que secteur à enrichir la biodiversité et à améliorer les moyens d'existence. Or, les nombreuses difficultés rencontrées dans la production, le transport et le commerce font que les fruits et légumes coûtent cher et sont inaccessibles pour beaucoup, en particulier dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Les fruits et les légumes sont hautement périssables, ce qui peut entraîner des pertes et du gaspillage, et comme beaucoup sont consommés crus ou non cuits, ils peuvent provoquer des maladies d'origine alimentaire. Intitulé « Fruits et légumes, opportunités et défis pour la durabilité des petites exploitations agricoles », la publication s'intéresse aux difficultés rencontrées par les petits producteurs de fruits et de légumes ainsi qu'aux possibilités d'action qui s'offrent à eux et a pour vocation de les orienter dans le démarrage ou le développement de leur activité. Disponible en version imprimée et en ligne, l'ouvrage donne des exemples de solutions pratiques à adopter pour assurer la durabilité de la production, la stabilité des chaînes de valeur et la vigueur des marchés, ainsi que des recommandations destinées à aider les décideurs à créer des conditions favorables à la transformation des systèmes alimentaires pour que le secteur des fruits et des légumes puisse se développer dans leur pays ou leur région. La publication est le résultat de 3 années de travail coordonné par la FAO et le CIRAD, et plus de 200 experts de premier plan ont contribué à son élaboration. Les fruits et les légumes nous aident beaucoup à avancer dans la mise en œuvre de plusieurs objectifs de développement durable, a déclaré Madame Beth Bechdol, directrice générale adjointe de la FAO. Les produits axés sur les connaissances et les partenariats stratégiques et porteurs de transformation tels que ceux que nous présentons aujourd'hui nous mettront sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable tout en veillant à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie sans laisser personne de côté, a-t-elle ajouté. La présidente directrice générale du CIRAD, Mme Elisabeth Claverie de Saint-Martin, a insisté sur l'utilité du partenariat entre la FAO et le CIRAD et a dit souhaiter que l'on investisse davantage dans l'horticulture, parent pauvre en matière de recherche agronomique. On ne saurait se passer du secteur horticole pour poursuivre une transition agroécologique qui associe la notion d'une seule santé et les approches territoriales. Nous devons maintenir et même accroître l'investissement dans ce domaine, a-t-elle ajouté. La libéralisation des marchés et la croissance des échanges internationaux ont créé des débouchés à l'exportation pour le secteur horticole de beaucoup de pays. Parallèle, l'urbanisation rapide et la croissance des revenus ont fait augmenter la consommation des produits qui en sont issus et ouvert de nouvelles perspectives pour les petits exploitants et d'autres acteurs de la filière horticole. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut en priorité donner les moyens aux petits exploitants des pays à faible revenu et à revenus intermédiaires de produire plus de fruits et de légumes nutritifs et sans danger, tout en protégeant l'environnement en générant des revenus et en faisant naître une équité sociale. La publication présente 14 études de cas du monde entier, notamment sur l'application au Vietnam de la technique de greffage aux légumes comme moyen de prévenir le flétrissement bactérien et de favoriser la tolérance des tomates aux inondations. Les systèmes agroforestiers réussis dans la région amazonienne du Brésil, l'utilisation de techniques biologiques contre les mouches des fruits sur l'île de la Réunion ou encore l'acquisition et la gestion de mégadonnées au service des petits producteurs de mangue au Sénégal.
Éducation, c'est notre rubrique du jour. Donatien Nyembo.
Commençons notre rubrique sur l'éducation par la République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Muyindo Nzangi a interdit le recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. C'est ce qu'indique la note circulaire numéro 33 signée le 17 septembre par le ministre et rendue publique le 18 septembre dans la soirée. Sur base du rapport du Conseil national de l'ordre des médecins présenté et adopté lors de travaux des États généraux de l'ESU tenus à Lubumbashi du 10 au 14 septembre, argumentent les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, seules 16 universités ont été choisies. Cette décision est, selon le ministre, conforme aux recommandations des États généraux relatives à l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Muyindo Nzangi a instruit toutes les universités non reprises sur cette liste de s'abstenir de recruter ou de programmer un quelconque recrutement de nouveaux étudiants en médecine dès l'année académique 2021-2022. Il ajoute que des dispositions ultérieures préciseront les modalités des réorientations des étudiants des classes montantes des établissements frappés par la mesure de fermeture de la faculté de médecine vers les universités viables appelées à poursuivre les enseignements en médecine. Le coût global du projet de connectivité de l'ensemble des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur d'Afrique à l'Internet à haut débit d'ici 2025 est estimé à 52 milliards de dollars américains. C'est ce que révèle une étude de faisabilité sur ce projet menée par la Banque mondiale et des Knowledge Consulting Ltd. dans le cadre de l'initiative Digital Economy for Africa lancée sur le continent en 2020 pour préparer son entrée dans l'économie numérique. Selon le rapport, les dépenses liées à la fourniture d'appareils aux étudiants et au personnel sont estimées à 17,3 milliards de dollars américains, les dépenses liées à la mise à niveau des réseaux des campus à 27,3 milliards de dollars américains, le coût de la bande passante pour la connectivité en amont 7,3 milliards de dollars américains et le développement soutien des réseaux nationaux de recherche et d'éducation et réseaux régionaux de recherche et d'éducation à 538 millions de dollars américain. Rappelons que l'initiative soutient la stratégie des transformations numériques de l'Union africaine pour l'Afrique 2020-2030, dont l'objectif final est de permettre à chaque individu, entreprise et gouvernement du continent d'accéder au numérique d'ici 2030. La fondation turque Maarif a inauguré samedi sa première école à Johannesburg en Afrique du Sud, premier projet éducatif de la fondation dans ce pays africain. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs responsables dont l'ambassadrice de Turquie à Pretoria, Asigul Kandas, et des représentants d'institutions turques dans la ville. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, l'ambassadrice Kandas a exprimé son grand bonheur à l'occasion de l'inauguration de la première branche des écoles Maarif en Afrique du Sud. Elle a expliqué que la Turquie planifie de continuer de transférer son expérience éducative à tous les pays du monde. Elle a ajouté que la fondation était devenue la porte d'entrée de la Turquie vers le monde dans le domaine de l'éducation. Elle a indiqué que 377 écoles sont affiliées à la fondation dans 44 pays à travers le monde. L'école inaugurée accueillera 250 élèves dans le premier cycle et le second cycle. À quelques jours de la rentrée scolaire, le débat éternel sur la langue d'enseignement au Maroc reprend place sur les réseaux sociaux. Une campagne digitale revendique l'anglais comme langue d'enseignement de matières scientifiques. L'anglais se taille une place grandissante parmi les jeunes au Maroc, considérant que c'est la langue du futur, de la science et du business. Un grand ensemble d'influenceurs et d'internautes ont lancé une campagne digitale sur les réseaux sociaux sous l'hashtag On revendique que l'anglais soit langue d'enseignement au lieu du français. S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d'étape de la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et des chantiers prioritaires au titre de l'exercice 2019, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, a déclaré que l'utilisation de la langue française dans l'enseignement des matières scientifiques était un choix irréversible. Mais pourquoi le français? Un choix par défaut, répond Hamzazi. Pour le moment, les professeurs de français sont majoritaires. Le ministre a néanmoins garanti la formation d'ici une dizaine d'années des professeurs capables d'enseigner en anglais.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Yamien. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican.
Quand le cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré, est-ce possible d'aimer?